un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des lois mises en place en 1942 sous Vichy et destinées à criminaliser l'homosexualité de plusieurs façons. Jusque-là, pourtant, la France peut s'enorgueillir d'avoir une des législations les plus progressistes au monde, puisque les relations entre personnes de même sexe se sont décriminalisées pendant la Révolution française dès 1791. Avec Vichy, l'homosexualité est d'abord considérée comme une circonstance aggravante dans les cas d'outrage public à la pudeur. Et puis, quiconque ayant commis un acte impudique ou contre nature avec un mineur de même sexe, je cite, peut encourir jusqu'à 3 ans de prison et 20 000 francs d'amende. Il faut préciser que la loi crée une majorité sexuelle différente à 21 ans pour les relations de même sexe, alors qu'elle est à 15 ans pour les relations de sexe différents. Dans la pratique, tout ceci permet aux forces de l'ordre d'arrêter les homosexuels, de faire des descentes ou des rafles et de condamner ces personnes pour outrage ou détournement de mineurs. Les lois ne seront abrogées qu'en 1982 sous l'impulsion de Robert Badinter et grâce à Gisèle Halimi. Le 7 mars de cette année, en 2024, le Sénat et l'Assemblée nationale ont finalement voté une loi visant à réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité entre les années 40 et 80. Le montant de la compensation financière, de la réparation en quelque sorte, reste encore à fixer. Tout de suite, voici le récit de deux hommes qui ont vécu pendant ces années leur orientation sexuelle comme une honte, voire comme un crime, par Justin Morin.
Je m'appelle Bernard Bousset, je suis né à Dax en 1941. J'ai découvert mon homosexualité vers l'âge de 14-15 ans et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais plus attiré par les garçons que par les filles, puisque je sortais avec des filles, mais en réalité je n'ai trouvé aucun plaisir. À l'époque j'étais pas mal et donc je plaisais pas mal aux filles, et comme j'étais dans une école où il n'y avait que des filles, pour ainsi dire, voilà, ça aurait été l'idéal pour un hétéro. J'ai rencontré un garçon à cette époque-là qui était plus âgé que moi. C'est mon premier amour. Dax est une ville thermale, donc il y a des hôtels et un casino. C'était le fils du propriétaire des hôtels et casinos. Et il montait à cheval. Et nous, en sortant de l'école avec les filles l'avaient repéré, on allait le voir. Et puis moi j'allais avec les filles, le regarder courir à cheval. Et bon, plusieurs fois, elles étaient là. Et, oh là, il est beau, là, 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 là. Et moi, je me disais, oui, pas mal, il est pas mal et tout. Et c'est très curieux parce qu'il est venu vers moi et c'est comme ça que je l'ai connu. Il s'est intéressé à moi plus qu'aux filles. Et après, un jour, il est venu me chercher à l'école en voiture. Les copines étaient folles. Mais ça fait du bruit dans la ville. Et un jour, on l'a trouvé dans le parc, mâchoire cassée, bras cassés. Il s'est fait casser la gueule et moi, j'ai eu peur qu'on me casse la gueule également. Et ses parents ont quitté Dax, ils ont tout vendu après, et moi j'ai quitté Dax aussi, sachant que j'étais sorti avec lui, mais ça devenait dangereux pour moi, c'est pour ça que je suis parti. Dax était une ville très violente, c'était macho, c'est les matchs de rugby, il fallait surtout pas être un peu efféminé, mince et maigre, hein. Là j'ai échappé au pire. Alors, je vais à Bordeaux parce que j'ai des parents à Bordeaux. J'ai une cousine très gentille qui me trouve une place à la Sécurité sociale de Bordeaux. Donc là, j'ai 16 ans. Et le fait d'être à Bordeaux, forcément, je rencontre des garçons parce qu'il y a des repères, je ne savais pas, les petits foulards. Alors, j'ai appris à Bordeaux que quand on mettait un petit foulard dans la poche arrière, c'est qu'on était homo, et qu'on était disponible. Alors il y avait des couleurs différentes pour dire si on était actif, passif, parce qu'à l'époque c'était toujours la moquerie, qui fait la femme, qui fait le mec. C'est ça, dès qu'il y avait, ah t'es pédé, tu fais la femme. C'était ça qu'on entendait en permanence, ah oh, t'as pète en tous, bon bref. Donc j'avais repéré qu'il y avait des garçons et des petits foulards dans les poches, donc les sourires et tout ça, on se rencontrait, mais c'est toujours très très discret, c'était dans les jardins ou le soir sur les quais, et il y avait des soirées organisées comme ça, clandestines, consacrées aux homos. C'était organisé à peu près tous les 15 jours, mais c'était loin de Bordeaux, hein. Donc on arrivait dans une espèce de maison où il n'y avait rien, c'était pourri, hein. Il y avait de la musique avec un vieux jukebox et des disques qu'on mettait un à un comme ça,
vous dansiez,
des 45 tours.
Vous dansiez.
Oui, on dansait, on buvait, on s'amusait, on était entre nous. C'est le seul endroit où on pouvait se trouver entre nous, tranquille, à faire la fête, tout en ayant peur, en sachant très bien ce qui pouvait arriver. Il y en a qui faisaient le guet dehors quelquefois, et puis bon, donc la police était très au courant, elle le savait, elle arrivait à plusieurs voitures, ils bloquaient toutes les issues, et quand on disait les flics, bah on s'échappait comme on pouvait, il y en a qui sautaient par les fenêtres, d'autres qui étaient rattrapés dans la nature. Moi j'ai essayé de m'échapper, mais j'étais pris tout de suite avec les autres, j'étais pris dans la pièce, mais c'est exactement comme chercher un criminel. Quand on arrivait au commissariat, c'était les empreintes, les photos et garde à vue, exactement comme si on avait tué quelqu'un. Ça m'a marqué, vous pouvez pas savoir. J'avais peur, mais une peur bleue. Je me demandais si j'allais ressortir du commissariat. Donc, 2 jours de garde à vue, là, enfermé dans une cellule, dormir avec des putes qui ont 60 ans et qui insultaient les flics, c'était violent. Elles criaient et tout ça, oh là là. Et puis le fait d'avoir un bol avec une soupe et un bout de pain et dormir sur du ciment sans une couverture, sans rien, c'était le bagne. Et donc là, Bordeaux, ça a été quand même la première expérience qui m'a marqué au niveau de la police. Moi, dès que je voyais des flics, j'avais peur. Hein. C'était ça, la vie d'un PD. Alors donc après Bordeaux, j'avais à Bordeaux un ami qui avait fait le service militaire avec moi. Quand le service militaire terminé, on est partis tous les deux à Saint-Tropez. Là à Saint-Tropez, j'ai trouvé un travail comme vendeur dans un magasin de vêtements qui s'appelait Machin, qui avait une boutique à Megève. Et c'est là qu'à Megève m'est arrivée une sale histoire. Un soir de Noël, j'ai rencontré un garçon. On a passé la nuit ensemble. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il était parti. Je me lève, et puis j'avais mis ma montre et puis la monnaie sur une table. Je me dis, tiens, il n'y a plus la montre, il n'y a plus la monnaie, et il n'y a plus ma gourmette. Connement, je vais tranquillement au commissariat de police, déposer plainte, je retourne travailler, ouvrir la boutique. 3 jours après, les gendarmes arrivent et ils me disent « On a retrouvé votre voleur, on a retrouvé vos bijoux, arrivez au commissariat, allez récupérer. » Très bonne nouvelle. Je vais tranquillement au commissariat. En effet, dans un foulard, il y avait tout. Donc je dis au commissaire « Bon, bah, écoutez, j'ai tout récupéré. » Et puis je me lève pour partir, le commissaire me dit « Ah non, non, monsieur, ça se passe pas comme ça. Asseyez-vous. » Ben je me dis « Encore quoi, qu'est-ce qui va se passer? J'ai la trouille. » Donc je m'assieds et il me dit « Vous allez passer au tribunal. Le jeune homme a 19 ans, vous en avez 23. C'est interdit. » Alors il faut rappeler qu'à l'époque, dans les années 63, les hétéros, la majorité sexuelle était à 15 ans. Pour les homos, elle était à 21 ans. Ce qui fait que c'est un détournement de mineur. Trois mois plus tard, je suis convoqué au tribunal de Bonneville, en Haute-Savoie. Moi, tremblant et tout, j'ai pris un avocat. Il n'avait même pas ouvert le dossier, donc il croyait que j'y allais pour un permis de conduire. Et on part au tribunal le matin, et il me dit « on rentre ». Moi, je rentre dans la salle. La salle était bourrée de monde. Je m'imaginais la honte, mais la honte, à Bonneville, devant un public. des paysans du coin qui venaient pour des problèmes de terrain, de tracteurs et tout. Donc on s'assied, la salle bourrée, la cour, donc tout le monde se lève, et le président fait « Bousset Bernard, à la barre !» Donc j'arrive à la barre, le président était plus haut comme ça, il me fait « Alors monsieur, vous êtes un inverti ?» Je ne sais même pas ce que c'était qu'un inverti. Hein. Je dis « Oui, monsieur le président », et tout le monde riait dans la salle. Il me dit « Alors monsieur, vous avez pris un bain à deux le soir du 24 décembre avec ce jeune homme ?» J'ai dit « Oui, parce qu'il y avait un ballon d'eau chaude et on ne pouvait pas prendre deux bains de suite. » « Ah bon, donc vous économisez l'eau ?» Tout le monde riait, mais tout le monde, ça a été la honte. Pendant toute l'accusation, il n'a cessé de me détruire par ses réflexions et faire surtout rire la salle. Et donc, c'était terminé, il me dit « Retourne à votre place ». Donc, je repars vers l'avocat qui était un peu plus loin, il me dit « Non, 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 pas là-bas, là » C'est-à-dire au banc des accusés. Donc, je m'assieds tout seul sans l'avocat. Donc la séance se termine, on attend dehors avec l'avocat qui me dit « Non, vous inquiétez pas, ce ne sera pas grave, il y a des circonstances atténuantes, donc ils m'ont rassuré. » N'empêche que j'ai été condamné à une amende qui représentait 2 mois de salaire et la parution de ma condamnation dans les journaux. Et ça, pour moi, c'était la honte à vie, c'était marqué au sceau par ma famille, et qui apprenait que j'étais homosexuel, j'étais condamné. J'avais fait un détournement de mineur. Donc, de ce jour-là, j'ai plus jamais revu ma famille. Et j'ai eu la honte de ma vie qui m'a empêché d'avoir une vie normale. Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une patronne quand même très très ouverte, qui était une lesbienne. C'est elle qui m'a pris sous son aile, qui a compris, elle a vu que j'étais très blessé. Et heureusement que je suis tombé sur cette personne-là, qui a d'ailleurs payé l'amende puisque je ne pouvais pas la payer, qui m'a soutenu. Elle n'a pas eu honte de me garder à la boutique. Alors qu'à la boutique, les gens savaient. On a reçu des tomates sur la vitrine. Elle m'a dit « C'est pas grave, Bernard, t'inquiète pas, on va s'en sortir tous les deux. » Me dire ça, tous les deux, pour moi, ça a été comme une clé qui m'a permis d'être plus solide en me disant « Il y a quand même une personne qui me comprend. » Alors que, jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me soutienne. Et je pense que si elle n'avait pas été là, je ne serais plus là aujourd'hui, parce que je n'avais qu'une seule intention, c'était de me foutre sous un train. Et c'est elle qui m'a sauvé, franchement. Paix à son âme. J'en suis là aujourd'hui. Bon, maintenant je m'en fous, j'essaye de m'en foutre. Moi bon, maintenant, à 83 ans, qu'est-ce que j'ai Bon, je peux m'isoler, je suis à la retraite. Je voudrais profiter maintenant. Mais quand même, je ne vais pas aller courir au milieu des soirées hétéros. Hein. Parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait un homophobe qui voyait que j'étais un pédé. Et dans son regard, je me demande toujours qu'est-ce qu'il pense de moi. Tout le temps. Donc, même à Paris, hein, je ne sors pas dans les soirées. Là, ici, je suis trop connu dans le quartier, ça me gêne, ça, je suis gêné, tout le temps gêné, c'est chiant. Moi, j'ai été construit dans la honte et dans la peur. On ne peut pas changer tel qu'on a été construit. Malgré que maintenant je m'ouvre, j'en parle et tout, c'est pas pour ça que je suis plus à l'aise. Hein. Voilà, je suis marqué par le fait que j'étais un délinquant, donc je suis un sale pédé. Et ça, ça me suit partout. Partout, c'est fou. Quand je vois que les jeunes assument bien leur homosexualité, moi j'admire ça. Parce que j'ai jamais pu le faire. Alors qu'il y a eu des progrès énormes de fait et tout. Hein. Le mariage gay, l'adoption et tout ça. Je me sens totalement en dehors. Parce que c'est trop tard pour moi. Et quand je dis que j'ai raté ma vie, c'est que moi, je me retrouve seul, sans enfant, alors que si j'avais été plus jeune aujourd'hui, je serais certainement en couple, peut-être avec un ayant adopté. Mais voilà, mon train est arrivé trop tôt.
Je m'appelle Michel Lapierre, je suis âgé de 75 ans. Depuis mon enfance, j'étais un passionné du métier de policier. Lorsque j'étais enfant, nous avions un voisin juste en face de chez mes parents, qui était brigadier de police. Tous les jours, je le regardais partir, je connaissais ses heures de travail. À l'époque, les policiers rentraient chez eux en uniforme. Et quand il passait devant la fenêtre derrière laquelle je me cachais, derrière les pots de fleurs, il me faisait un grand salut militaire, et alors là, c'était le magnifique. Et puis, quand est arrivé le moment en quatrième où on nous demande une orientation professionnelle, mes copains d'enfance, eux, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire, chauffeur de taxi. Pour moi, c'était une évidence, j'allais être flic. Donc je suis entré à 18 ans comme auxiliaire de bureau, au fichier régional, de la PJ de Lyon. Et là, j'ai côtoyé tous les policiers de la région lyonnaise dont je voyais les noms dans les journaux, parce qu'à l'époque, on mettait beaucoup les noms. Et quand je suis arrivé à l'hôtel de police de Lyon, j'étais le plus jeune, j'avais 18 ans. Tout le monde venait voir la bête curieuse qui venait d'entrer dans la police. C'était l'époque où, avec les copains, on sort, on va draguer les filles, etc. Et moi, je sentais que de toute façon, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand j'avais des rapports avec une fille, c'était pas ça. J'ai eu une fille qui était merveilleuse, elle était belle, elle était intelligente. On parlait déjà de fiançailles, etc. Et puis un beau jour, j'ai mis un terme à notre relation, elle n'a pas compris non plus. Et moi, je refusais d'analyser ce qui me bloquait. J'ai eu beaucoup de mal à accepter mon homosexualité. Et entre-temps, j'avais eu une première fois des rapports avec un garçon. Et là, je m'étais rendu compte que c'était vraiment ma sexualité. Mais je le cache complètement dans le cadre de mon travail, parce que déjà, il faut savoir qu'à Lyon, on avait un directeur du SRPJ qui habitait dans l'hôtel de police, qui avait son appartement. Et en face de l'hôtel de police, sur le quai Général Sarail, il y avait des toilettes publiques qui étaient un lieu de drague homosexuelle. Et un soir, en promenant son chien, ce directeur se fait draguer par un garçon. Et là, il explose littéralement de violence. Et il décide régulièrement de faire des rafles aux abords de cette pissotière. Et un soir, je suis de permanence à l'identité judiciaire. Et il fait une de ces rafles et il amène une dizaine de garçons à photos, empreintes, etc. Il les traitait plus bas que terre. Je me souviendrai toujours, il y avait un homme jeune qui était marié. Et quand il est parti du service, il m'a regardé, il m'a dit « Je te plains ». Et il avait compris que quelque part, moi j'étais très ennuyé d'être obligé de prendre les empreintes des gens dont je faisais partie. Et il a dû le comprendre parce que son expression « je te plains », je l'ai encore dans la tête. C'est très violent, je me sens mal dans ma peau de faire ce genre de choses. Et je me dis que si jamais ça s'apprend, que je suis homosexuel, ça va être terrible. En 1971, il y a eu la création d'un nouveau corps de policiers en civil. Donc je demande à passer en service d'investigation à la criminelle. À Lyon, il n'y a pas de place. Et puis un jour, en 1973, on me dit « tiens, il y a une place qui se libère à Annecy. Si ça vous intéresse, pourquoi pas ?» Et ben, j'ai décidé à 25 ans de venir m'installer à Annecy et j'ai été inclus au groupe criminel de la police judiciaire d'Annecy. Et là, je peux dire que je me suis éclaté. J'ai des affaires qui ont été saluées. Le hold-up du casino d'Annecy le 18 juillet 1974. J'ai identifié les auteurs et j'ai pu les faire interpeller avec mes collègues du groupe de répression du banditisme de Lyon 8 jours plus tard. Et j'ai réussi à vraiment faire ma place dans ce métier. Et un jour, mon patron me dit, bah, tu sais que si tu continues comme ça, l'année prochaine, tu vas passer au grade supérieur sans concours. Alors, quand je suis arrivé à Annecy, je me suis quand même méfié. Pour donner le change avec les jeunes collègues qui venaient d'arriver en même temps que moi, qui étaient tous mariés, pères de famille, je me forçais à sortir avec des filles. Et c'était très très compliqué. Entre le métier et le regard des autres, pour moi, c'était terrible. Je ne pouvais pas en parler dans ma famille. Et puis, chasser le naturel et revient au galop, j'ai commencé à avoir des rencontres sur Annecy. Je fréquente ce que l'on appelait un bar gay-friendly, c'est-à-dire qu'il y avait des hétéros et des gays. Les gens m'aimaient bien, donc je ne voyais pas du tout de danger. Et un soir, la patronne de cet établissement me dit « Oh, on va organiser une soirée de transformistes. Est-ce que toi, qui as l'habitude de faire des animations, ça te dérangerait ?» Je dis « Moi, je veux bien, à condition que je sois habillé en monsieur loyal, queue-de-pie, le nœud papillon, classe. » Je dis « Oui, ça, il n'y a aucun problème. » Et cette soirée se déroule devant une trentaine de personnes. Et quelques temps après, mon patron est contacté par un inspecteur de la sûreté d'Annecy qui dit à mon patron, tu sais que t'as un PD chez tes gars, il participe à des soirées travesties. L'autre, il prend ça pour argent comptant. Et c'est là où il me convoque en me disant, ben, j'ai appris que tu étais PD. J'ai dit, oui, alors, tu serais marié, t'aurais 3 maîtresses, j'en aurais rien à foutre. Ça, je te le pardonne pas, tu donnes ta démission. J'ai dit, hors de question. Emmenez-moi devant un conseil de discipline. Il me dit, tu sais très bien que professionnellement parlant, je peux rien contre toi. Je lui dis, oh, je reste. Tu restes, tu vas en baver. Et j'en ai bavé. Moi, je n'ai jamais imaginé un instant quitter ce métier. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse me faire ça. C'est m'arracher les tripes. Pour moi, ma vie, elle était faite de la police. Dans les jours qui suivent, je commence déjà à prendre mon mois de congé, de façon à pouvoir prendre du recul. Parce que c'était difficile d'imaginer revenir dans mon bureau alors que mes collègues ne bougeaient pas une oreille. Tous ont été menacés par le commissaire en disant, si vous bougez, ça ira mal pour vous. Donc, tout le monde me lâchait. Et puis, il va tout faire pour me faire démissionner. Il a été odieux, puisque c'était une confrontation permanente. Et je ne voyais pas d'issue. Donc là, j'ai devancé la chose. J'ai demandé la mise en disponibilité de mon emploi pour 2 ans. En me disant, d'ici 2 ans... il sera parti, je pourrai revenir, la tête aura changé. Je fais cette demande de mise en disponibilité, et là, c'est accepté en l'espace de 8 jours. Normalement, il faut 1 mois à peu près, ils font traîner et tout. Mais là, en 8 jours, accepté. Donc, ce commissaire principal me convoque un mercredi soir, le 27 novembre 1977, c'est 19h, je rentre dans le bureau. Il me demande de lui remettre mon arme, ce qui est normal, hein, mes menottes et ma carte de police et ma plaque de police. Il me les réclame, je les lui donne. Et là, il prend ma carte de police et sous mes yeux, il la découpe au ciseau. Même 47 ans après, c'est très difficile à entendre. parce que j'ai vu cette carte tomber en morceaux. C'est ma vie qui est tombée en morceaux sur son bureau. Et je l'ai vu partir dans la corbeille à papier. Et ça, psychologiquement, ça a été terrible, parce que je me suis dit, ça y est, c'est fini. On met fin à mon rêve d'enfant. Le petit flic est mort. Ça a été très lourd, très très lourd. Pendant des années, j'ai pas pu en parler. Et c'est vrai que, malgré tout ce que j'ai vécu, j'aime encore la police. Les années bonheur que j'ai eues pendant les 11 ans où j'ai été flic, je les ai encore dans les tripes. La semaine dernière, j'ai été élu au bureau de l'amicale de la police nationale d'Annecy que j'avais créée en 1976. Mes collègues ont découvert mon existence tout à fait par hasard et ils m'ont dit « Écoute, tu viens assister à l'Assemblée générale de l'amicale ». Et de me retrouver encore dans cette ambiance de police en ayant été nommé au bureau de l'amicale, mais c'est vraiment formidable. Donc il y a des réhabilitations qui se font, qui me montrent que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes.
C'était « Quand l'homosexualité était un crime », un reportage de Justin Morin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Bernard, à Michel, à Laura et au chercheur Antoine Idier pour ses conseils. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.